l'Afrique dans tous ses états. Une émission réalisée et produite par Radio FM+.
Et oui, aux commandes de cette émission, c'est Marie-Claude Siakezak. Bonjour Marie-Claude.
Et bonjour Guylaine, quel plaisir de se retrouver après une semaine.
C'est ça, vous voulez obtenir quelque chose de moi. C'est toujours votre invité Patrick Darlot qui nous a déjà parlé la semaine dernière. Et il a fallu l'arrêter. Heureusement qu'il y avait la musique de Brenda Fassi qui nous a fait partir en bus. Alors nous nous sommes arrêtés dans votre parcours de vie Patrick. En 1994, où là, vous constatez que l'Afrique a des nuances de couleurs. C'est pas que du blanc, c'est pas que de la transparence.
Mais oui, en fait, c'est les rencontres en fin de compte avec Bomavé. Et là, donc, je me retrouve à inviter. Je finis par accepter d'aller faire pour lui toute une série de portraits de famille. Un petit peu en marche arrière parce que je me demande vraiment comment est-ce qu'un blanc peut arriver à faire des photos de noir. Techniquement, c'est déjà pas évident, humainement, à ce moment-là, je me suis fait un monde qui est un monde culturel, basé sur ce qu'on parle du racisme en Europe, c'est-à-dire en disant, ça va être compliqué, quoi. Et donc, je prends l'avion et là, il y a un gag qui, à mon sens, tout à fait symbolique. C'est que je prends l'avion sur Air Algérie et ma valise reste en France. Je me retrouve à Foucault d'arriver. Alors, en plus, il y a un avion qu'une fois par semaine. Je me retrouve à Ouaga avec juste ce que j'ai sur moi comme fringue.
Pas d'appareil photo ?
Si, l'appareil photo, les éléments purement techniques,
ça ne vous lâche pas.
Ça ne vous lâche pas, c'est toujours en cabine. Ouais. Ça a toujours une histoire de fou, parce qu'à l'époque où c'était des films pellicules, il y avait toujours une heure de dispute avec le douanier qui voulait passer au rayon X l'ensemble des boîtiers de pellicules. Mais bon, ça, c'était systématique. L'informatique m'a sauvé la vie, et c'est vrai que le numérique, pour moi, c'est un très grand confort pour le voyage. Mais bon... Je me retrouve avec, en tout et pour tout, mes fringues sur moi, mon
gros
passeport
pull,
le gros pull, la veste, parce que c'est au mois de janvier.
C'est ça.
Et puis là-bas, s'il fait chaud, c'est pas l'avion. Hein, il fait effectivement 35.
C'est la saison froide là-bas pour
toi. Il fait quand même 35
17, 18
à 16 heures.
Et vous recevez cette bouffée d'air chaud là.
Et puis je constate que j'ai pas de valise. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est que Bomavé me trouve un logement dans une espèce d'hôtel pension de famille qui s'avère être en fin de compte une boîte à putes, mais bon, ça fait partie
oui,
des
en
gags
général,
de
c'est souvent comme ça. Aux abords de passe.
Ça servira plus tard pour le truc. Non, en plein centre-ville de Ouaga. Et puis le lendemain matin, on va au marché, quoi. Et on va au grand marché pour m'acheter des fringues, quoi. Et puis, bien sûr, c'est Bomavé qui décide d'acheter des fringues. Alors là, il me fait un vieux piège diabolique parce qu'il m'achète du Fassofani. Donc, me v'là déguisé en blanc africain.
Fassofani.
Moi, à partir du moment où, de toute manière, je suis parti dans l'histoire, je laisse faire.
Hein. Ouais, vous laissez conduire.
C'est pas la peine d'essayer de lutter. Ouais. On part dans le système. Donc, je me retrouve partant en brousse. Qui sont tous habillés avec des locks, moi avec du Fassofani, c'est-à-dire le grand luxe du costume du blanc riche, quoi. Donc voilà, ok, d'accord.
Okay. Eux aussi, il y avait un cliché certainement en tête.
Ah oui, non, mais bon, lui, visiblement, il utilisait son blanc pour arriver à ses fins. C'était très net. Ouais. Et j'avais bien compris que le blanc arrivait à ses fins, c'était aussi d'arriver à ce que le blanc, il aide à financer un dispensaire, des puits, un ensemble de trucs comme ça. Et les hasards font que, les hasards pour moi, pour lui c'était à mon sens super calculé, fait que je me retrouve dans la cour de Palou Yao, qui est un féticheur qui est très connu et qui entre autres travaille effectivement depuis assez longtemps avec des blancs, entre autres parce qu'il traite la folie. Il traite la folie par des transes de génie. Et c'est d'une efficacité absolument surprenante. Et moi, en fin de compte, dans cette histoire, je me retrouve...
La folie, la psychose
tout ce qu'on appellerait psychonervose, etc.
C'est ça, voilà. Tout est dans le même panier, quand même.
Tout est dans le même panier,
tout ce qui déborde, quoi.
D'accord.
Et je me retrouve dans cette histoire à être, en quelque sorte, témoin d'un certain nombre de choses. Et Les hasards font que quelques jours après, je me retrouve à aller dans le village et il y a eu un mort. Il y a eu un mort et il y a donc des funérailles et on me demande de venir. Et lorsqu'il y a des funérailles comme ça, il y a des sorties de masques et des objets rituels, c'est-à-dire vraiment un rite de funérailles aussi important que chez nous, rite de funérailles. Petite différence quand même, il ne s'agit pas d'un enterrement. La personne souvent a été enterrée souvent l'année d'avant.
Les funérailles, ce n'est pas des enterrements.
Parce
c'est
que, en fait, quand quelqu'un meurt, il faut toujours penser qu'il fait 35. Hein. Quand quelqu'un meurt, il est enterré en règle générale dans la cour, pratiquement dans la journée même. En tout cas, on ne peut pas se permettre de garder le corps plus d'une journée.
Pour des raisons d'hygiène, tout simplement.
Ouais. Oui, pour d'hygiène. Donc, il y a une sortie rituelle pour mettre le corps en terre, qui est effectivement un des masques principaux qu'il fait. Mais la partie importante, on pourrait dire ce qui correspondrait chez nous à une levée de deuil, c'est-à-dire là dans lequel il y a tout le monde qui fait et où finalement on finit par chasser le mort de façon à ce qu'il arrête d'embêter les vivants, c'est donc au bout d'un an. Donc la funéraille, c'est ça. Donc je me retrouve là dans mon premier voyage à ce qu'on me demande de venir et qu'on vérifie soigneusement que je n'ai pris aucun appareil photo. C'est-à-dire que je me trouve dans une situation étonnante, c'est-à-dire que comme ça se passe dans la famille dans laquelle je suis accueilli, mon logeur, on ne peut pas ne pas m'inviter, on ne peut pas me montrer ce qui se passe, on ne peut pas mettre de côté, mais par contre, on vérifie bien que le blanc, il sera purement et uniquement spectateur de cette histoire. Donc moi, je me retrouve dans une situation absolument étonnante, je suis le seul unique blanc dans la zone. Et je vois des choses que les gens ne voient pas, non pas parce que c'est secret, mais parce que simplement, si vous n'êtes pas invité à un enterrement, vous allez, même en Europe, si vous n'êtes pas invité à un enterrement, vous n'allez pas prévoir de venir à l'enterrement. Quoi. Donc, c'est, tout à coup, je me trouve une situation où je vois des choses auxquelles je ne m'attendais pas. Et tout ce premier séjour est basé comme ça sur des concours de circonstances extrêmement étranges qui font que je me retrouve être témoin de choses que l'on ne voit pas. Alors, je suis persuadé quand même qu'entre Palou, Beauvais et le reste, ils n'ont pas prévu. Ils ne sont pas avec un mental occidental, on ne prévoit pas. Mais puisque je suis là, on me montre des choses qu'on ne montrerait pas automatiquement. Et comme on veut me donner un rôle dans cette histoire, qui est au départ d'abord un rôle un petit peu économique, hein, faut être très clair, ça se passe déplacer que l'année après, on monte des choses pour m'aguicher, hein, pour me donner envie de revenir et puis d'aider, de faire partie de l'histoire.
Quoi. C'est donc, plus imaginatif qu'une prostituée quand même, ou qu'une femme.
De ce côté-là, oui. Non,
mais c'est quand même plus créatif.
Voilà. Je trouve. Donc je me trouve entre autres, quelques jours plus tard, à être une sortie de fétiche et à me retrouver en plein milieu d'une scène de transe complètement délirante, dans laquelle je comprends strictement rien, sauf que le mec qui est là, je me pose la question de savoir s'il a pris une drogue ou pas. Je ne peux toujours pas vous répondre. Je ne pense pas. Je pense qu'on est vraiment dans de la transe, c'est-à-dire dans la capacité de se mettre dans un état, mais dans lequel le gars fait physiquement un certain nombre de choses qui me paraissent à la limite des capacités physiques qu'on peut avoir normales. C'est vraiment, quand je dis sauter de branche en branche dans les arbres, c'est vraiment ce niveau-là. C'est-à-dire que moi, je me suis vu certaines années en suivre en moto et à 30 km/h ne pas arriver à rattraper quelqu'un qui ne paraît pas essoufflé. Sur du terrain qui est quand même franchement... Oui.
Chaotique.
Chaotique pour une moto et qui est à peu près correct pour quelqu'un qui marche. Hein. Faut mettre les choses en place. Et visiblement, Palou se sert de moi comme... preuve intransigeante de l'histoire. On ramène le blanc aux premières loges à plusieurs reprises pour voir un certain nombre de phénomènes ou un certain nombre d'événements, entre autres de talismans qu'on sort, du sol et des trucs comme ça, de façon à ce que je dise qu'effectivement j'ai vu ça et que, comme le magicien de service, je mettrais 3-4 ans à voir certains des tours de passe-passe de l'histoire. Hein, Et donc, on m'a donné, dès le départ, un rôle particulier. Je repars au bout de 15 jours, 3 semaines de ça, avec la compréhension que je suis avec un rôle particulier dans un domaine que je ne comprends pas, auquel je ne pensais même pas que ça puisse exister dans le monde, et que là, il y a franchement quelque chose d'intéressant à aller voir. Donc, je me promets bien de revenir. C'est-à-dire que quand je leur dis, lorsqu'ils finissent par me donner la route, 3 jours pour avoir
trois
la
jours,
route. Hein,
3 jours, oui.
C'est-à-dire que bah, je dis que je vais partir. Et on me dit, mais non, non, il n'est pas question que tu partes. Et on se débrouille, on se débrouille pour que je ne puisse pas partir, mais même physiquement.
C'est vrai que la tradition, c'est 3 fois.
Au bout du troisième jour, j'avais... On m'avait dit, faut que tu sois à Ouaga une semaine avant. Bon, ok. En fait, on me prévenait de ce truc-là, indirectement. J'ai quand même dû insister bêtement pour dire, non, non, là, quand même, j'ai un avion, je ne peux pas me permettre de rester des trucs. Donc, ils m'ont donné la route, mais c'était... Et je pense que c'était sincèrement à contre-cœur. C'est-à-dire que il s'était passé quelque chose qui n'était pas fini. Donc, voilà, je me mets à partir et puis je me retrouve donc à faire une année en Europe. En revivant, en restructurant inconsciemment tout ça dans ma tête. Marie-Claude sait très bien que je fonctionne à 80% dans le système inconscient et qu'à 20% dans le conscient, ce qui fait des
comme
trucs...
Comme beaucoup de gens, hein.
Ben oui, oui, sauf qu'on n'a pas conscience de ça. Moi, j'en ai maintenant conscience que si j'essaye de réfléchir et de résoudre le problème, c'est foutu. Je ne fais que créer des complications. Que si, par contre, je laisse mon instinct finir par prendre le temps nécessaire à se déplacer, tout à coup, il se passe quelque chose. Donc, je me retrouve l'année d'après à me retrouver dans la cour de Palou. Vous m'avez organisé plein d'autres choses. Et là, il se passe un phénomène tout à fait curieux. Quand je rentre dans la cour de Palou, je vois que Palou est malade. Et j'ai vu mon père avec des problèmes de prostate. Et je vois que Palou, en fin de compte, est en urémie. Je ne suis pas du tout médecin, mais je vois qu'il est en urémie et qu'il a visiblement un problème de prostate. Et on discute ensemble. Et Palou, finalement, me dit que ses armes ne marchent plus. Et donc, je découvre en discutant avec lui, donc avec traducteur interposé, hein, qu'en fin de compte, il me fait une espèce de confiance absolument incroyable, puisque je lui dis, mais bon, moi, je peux t'emmener à l'hôpital à Bobo ou à Ouaga pour ça, quoi.
Boromo, c'est entre les deux, il faut dire, c'est entre les chemins.
Et il avait un neveu qui était député, donc en fait, finalement, c'est à Ouaga qu'on l'emmène. Et... Je lui dis, ben, dans ce cas, je vais aller chercher demain. Le lendemain, je vois en grand boubou son sac de voyage, etc. C'est-à-dire qu'il il savait très bien que moi, l'emmenant chez la médecine blanche, c'était sa seule chance de survie. Et là, se grève un double gag auquel personne n'avait pensé. C'est que, Palou étant chef coutumier, en fin de compte, sur une zone de territoire, il avait à faire les funérailles d'une personne qui était très importante, qui était la mère d'un député. Donc quelqu'un à qui on faisait des funérailles exceptionnelles, à la fois parce que le député, parce que souvent, ses enfants avaient réussi. Et c'est lui qui, en fin de compte, était l'oncle, qui donc était censé s'occuper de ces funérailles-là. Or, il était dans un état physique dans lequel ce n'était pas possible. Et là, il se retrouvait, en fin de compte, à l'hôpital, à Bobo, sous perfusion, et avec une sonde, alors qu'il devait faire ça. Donc moi, je repars en France, et le député en question, Yaomark, me dit, dans 5 semaines, il y a les funérailles de ma mère, tu viens. Tu viens et tu apportes tes appareils photo. Donc moi, je me retrouve, en fin de compte, invité par le fils de cette femme, qui visiblement était extrêmement importante pour l'ensemble, avec la capacité de faire. Donc, je me débrouille pour que ma compagne puisse venir, je me débrouille pour trouver des sous pour acheter des pellicules photo, je m'achète un magnétophone, les 2-3 éléments de l'ethnologue basique, et je repars donc là-bas, et je me retrouve dans une situation dans laquelle les ferrures ont lieu et que Palou, qui est le féticheur de danse, se trouve être à l'hôpital. J'avais eu une chance énorme d'avoir rencontré la première année une femme tout à fait exceptionnelle qui est Laurentine Quéré, on avait le même âge, et là, elle savait qu'elle avait le sida et donc elle est morte parce qu'à l'époque, les trithérapies, rien n'existait pas. Non, on a fait le maximum pour l'aider, mais
surtout pour les femmes en plus.
Ça n'existait pas du tout à cette époque-là. Et elle, par contre, était quelqu'un d'extraordinaire au niveau de la capacité linguistique. Elle parlait une quantité incroyable de langues et donc elle m'a servi d'intermédiaire. Et ça, c'est extrêmement intéressant de travailler homme-femme en plus pour ça, parce que pour eux, ça voulait dire qu'il y avait deux côtés. Et suivant le cas, on parlait à l'un ou on parlait à l'autre. Donc moi, ça m'ouvrait des portes que j'ai jamais retrouvées vraiment à ce niveau-là. Après ça, j'ai été dans le clan des hommes, mais pas dans le clan des femmes. Et tout d'un coup, au moment où il y a les funérailles, tout d'un coup, un moment où je me retrouve dans le village, on me dit, mais attendez, il y a un problème, c'est que Palou, il est mort. Et que le blanc, il a mis le Palou au frigidaire pour que les funérailles puissent se passer. Et donc, tout est coincé dans le village. Et moi, en fait, quand je savais qu'il était à Bobo, et je l'avais eu au téléphone. À l'époque, il n'y avait pas de portable. Hein. Attention, le téléphone, ça veut dire qu'il fallait trouver un téléphone dans la ville.
Et je sais que c'était difficile à l'époque.
Comme j'avais le magnétophone, alors appareil photo, je ne pouvais pas prendre de photos et les ramener puisque c'était de la pellicule donc à cette époque-là. Par contre, j'avais le magnétophone. Donc, je décide de partir avec Laurentine et Denise. On part à l'hôpital à Bobo. Et j'enregistre un message de Palou montrant qu'il est vivant. Je constate que Palou, en un mois, il a quand même repris 15 kilos et qu'il doit être opéré, mais que c'est opérable et que ce n'est pas cancéreux. Et moi, je reviens avec la bande magnétique pour l'aimant. On fait taper le griot au milieu de la nuit. Tout le monde en queue-leu-leu et moi, mettant un casque audio pour faire écouter aux gens
la voix de Palou.
La voix de Palou. Bilan de l'histoire, le lendemain matin, on me dit, le blanc, il est très très fort, parce que non seulement Palou, il est mort, mais en plus, il a ramené la voix. Mais comme effectivement Palou, dans son truc, disait qu'il donnait la délégation de l'ensemble des cérémonies à un de ses neveux, l'ensemble se fait complètement. Et moi, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on vient me chercher pour faire des photos. Ouais. Et on me pousse en plein milieu des trucs comme ça pour que je fasse un témoignage des différents éléments. Ok, bon, je repars avec mon bazar. L'année d'après, je reviens avec 4 tonnes de tirage papier pour donner aux uns et aux autres. Ouais. Je tombe sur Palou, qui donc était en pleine forme, opéré, avait repris son truc. À l'époque, il devait avoir à peu près 70 ans, je pense. Bon, c'est toujours très difficile de savoir. Une partie des Africains, c'est de ces classes d'âge-là, ils sont nés verts. Alors, ce n'est pas qu'ils ont un nez vert. Hein. Non, non. C'est qu'ils sont nés vers telle année.
C'est ça.
En règle générale, la mortalité infantile étant telle que dans... Mais ce serait encore le cas maintenant. Mais maintenant, on saurait qu'ils sont morts. On ne mettait un enfant à l'état civil que lorsqu'il avait 4-5 ans.
Oui, mais Patrick, ça continue. Hein. Il y en a énormément, énormément d'enfants qui n'ont pas d'identité.
Ça m'a vu des gags après ça quand il a fallu faire venir en Europe. Mais bon. Donc, et Palou, en fin de compte, le deuxième soir où je suis là, tout le monde dans le village, c'est quand même 5000 personnes. Hein,
mais oui, c'est un gros village.
Réparti sur une immense surface. Hein. C'est des hameaux, en fait, hein, par rapport à nous. Fait taper le griot. Donc, tout d'un coup, on voit apparaître les deux tiers du village dans la place devant chez Palou, les griots qui tapent, etc. Et moi, je ne comprends rien au film, puisque tout de même, je ne parle pas la langue. Donc, et en fin de compte, Laurentine me traduit au fur et à mesure, et Omar, pour me dire, en fin de compte, dans cette histoire, Palou annonce que tu es son fils aîné, puisque tu lui as sauvé la vie, et que maintenant, il faudra que tout le monde le considère comme ton fils aîné, que sinon, les gens seront... il y aura une malédiction sur les gens. Alors là, il se passe un phénomène absolument étrange, c'est qu'une partie des choses que Baumavé et que les autres m'ont montré sur différentes cultures, où dans certains cas j'ai pu faire des photos, dans d'autres cas j'ai pas pu en faire, tout d'un coup, tout ce qui est la culture winien s'ouvre, puisque je suis devenu le fils aîné de Palou. Mais par contre, tout ce qui est les autres cultures, Nounouma, Dafi, etc., je deviens winien. Donc avec des rapports de fratrie et de vie, mais par contre, toute une partie des éléments qu'on me montrait, puisque je ne suis pas un blanc et je ne suis pas un nounouma, je suis devenu un winien, me sont fermés. Donc je me retrouve dans une direction extrêmement particulière qui va déboucher sur d'autres possibilités, mais qui vont en fermer d'autres. À la suite de ça, donc je me retrouve là, donc avec à dormir dans la cour de Palou, donc directement sur le sol, etc. Et à ce moment-là, il se passe un deuxième phénomène tout à fait étrange, c'est que dans ces sorties de masques, il y a un personnage qui est très important, qui est Konabe, le Témé, qui est en fin de compte du village d'à côté, la ville un peu importante d'à côté, de Boromo, qui est chef des masques winiens. C'est-à-dire, c'est l'un des plus anciens, quelqu'un qui devait aussi, à l'époque, dans les 90, devait avoir dans les 65-70 ans, et qui était celui qui organise les rituels des masques sur l'ensemble des saints. Témé Konabe, en fin de compte, découvrant que Palou m'avait pris comme son fils, le prénom que m'a donné Palou était tout à fait caractéristique, puis c'est Zama. Et Zama, ça veut dire le populaire, le peuple, celui qui s'occupe des autres. Donc en clair, il me disait, Coco, démerde-toi pour aider un maximum la zone.
C'est dommage qu'on ne voit pas le signe de Patrick.
C'était un piège dans l'histoire, hein, on est bien clair. Et tout à coup, il y a Konabe qui est en fin de compte vexé, parce qu'en fin de compte, l'autre s'est approprié. Or, il s'avère que Palou et Konabe sont des copains d'enfance et se connaissent parfaitement bien et savent très bien les rôles des différents des uns par rapport aux autres. Alors, conclusion, Konabe décide tout simplement que je suis son neveu. Puisque je suis le fils de Palou, ouais. Je suis son neveu à lui.
Ouais, oui.
Voilà. Oui, mais c'est un piège diabolique auquel je n'avais pas pigé.
Tout à fait.
Parce que nous sommes là dans des zones de matriarcat. C'est-à-dire que ces cultures-là, l'homme, il fait le beau parce que c'est le reproducteur. C'est lui qui a un rôle très important puisque c'est lui qui va chasser et c'est lui qui va défendre. Mais ce sont des matriarcats, puisqu'il faut bien que la survie du groupe va passer par la femme. Et donc, en fin de compte, en décidant que je suis son neveu, il me met dans le clan où c'est lui qui prend le pouvoir. Parce que quand on est en fin de compte dans un groupe minien, votre père est votre père. Mais par contre, la seule personne dont on soit sûr dont vous êtes descendant, c'est la mère. La mère ne peut pas nier, puisque vous sortez de son ventre. Par contre, ce n'est que la parole de la mère qui fasse que l'on sache que c'est le père et le père. Donc, l'affection, l'autorité matérielle, ce sera bien le père géniteur reconnu par la mère. Mais par contre, sur la tradition, sur l'éducation traditionnelle, sur les rituels, sur l'ensemble, le seul homme dont on sait qu'il est lié à la mère, donc directement à vous, c'est votre oncle maternel. En règle générale, il y a toujours un oncle plus âgé. Si c'est par contre votre mère est la première de la fratrie, ce sera le deuxième. Donc en fin de compte, Konabe Témé, en me prenant comme neveu, il prend pouvoir sur moi par rapport à Palou. Mais chose extrêmement intéressante, c'est que l'élément est réciproque. C'est-à-dire que, bien sûr, le temps de l'élevage, c'est-à-dire en gros... on va dire qu'on reste dans la partie génitrice femelle, jusque vers 7 ans. Et j'utilise volontairement le terme de mâle et femelle parce qu'on verra que c'est, dans ces cultures-là, ce n'est pas du tout péjoratif, c'est même extrêmement important comme référence. À partir de 7 ans jusqu'à la puberté de chasse, c'est-à-dire vers 13-14 ans, moi, en tant qu'homme, je vais être dans le clan des hommes, élevé par l'oncle. C'est lui qui a roté sur moi. Mais à partir du moment où je vais être initié au masque, je vais danser les masques et je vais être chasseur, à partir de ce moment-là, j'ai le même rôle que lui. Et quand lui va vieillir, c'est le neveu qui va avoir l'autorité. À la fin de sa vie, Konabe, lorsqu'on partait au cabaret pour boire du dolo et faire un nombre de choses, quand je commençais à voir qu'il commençait à avoir un petit coup dans l'aile et puis que ça commençait à pas être très bien pour quelqu'un de 80 ans qui n'était pas en forme, disait « Mon oncle, il faudra rentrer ». Et il me suivait comme un petit chien, c'est-à-dire que j'avais totale autorité et jamais personne n'aurait été contesté mon autorité de neveu qui s'occupait de son oncle. Donc dans le gag de l'histoire, Palou avait fait un raisonnement pour m'adapter à l'occidental en me prenant comme fils, avec une volonté de féticheur qui avait vu qu'économiquement je pouvais être intéressant. Puis bon, okay, effectivement, ça s'était bien passé au niveau de la relation humaine, hein, faut être clair aussi, sinon il m'aurait jeté comme plat d'eau de blanc. Mais l'autre, en fin de compte, me donnait un rôle qui m'a permis, en fin de compte, d'ouvrir des tas de trucs. Et c'est là où, en fin de compte, ça a entraîné... faudrait 10 émissions pour faire tous les délires dans lesquels je me suis retrouvé piégé, hein, piégé au sens noble du terme, hein, c'est-à-dire avec le fait que ça, je découvrais des trucs et des tas de choses extraordinaires au niveau culturel que dans certains cas je ne sais pas arriver à expliquer. Je peux à la rigueur emmener à l'africaine les gens sur place, mais je ne peux pas le donner. Parce que le système de raisonnement n'est pas du tout un système de raisonnement intellectuel. Tankien, qui est un autre sculpteur avec qui je m'entends énormément bien, qui s'est fait plein de choses, une fois ou deux, j'ai posé des questions à la manière ethnologue. Dire le truc où on repose une question pour recouper quelque chose qu'on a bien vu et compris, mais dont on n'est pas sûr, au sens intellectuel occidental. Et Tankien me regarde, mais vraiment d'une fâché, quoi, et me dit, mais je t'ai déjà montré. C'est-à-dire, ou t'es un con et t'as pas compris ce que je t'ai montré, et à ce moment je me suis trompé, j'aurais pas dû te montrer, ou alors qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu veux savoir en plus? Qu'est-ce que tu veux magouiller? Qu'est-ce qui se passe? Enfin, j'avais tout faux. Complètement. Et donc, je me retrouve dans la situation étonnante que, dans cette histoire, je suis devenu un griot, au sens non pas du musical et autant du pouvoir de notaire, mais autant de mémoire. On m'a demandé, Palou m'a demandé, Konabe m'a demandé de faire l'histoire de leur culture. Ils m'ont expliqué, les deux, de manière parfaitement claire et consciente dans leur tête, qu'ils ne transmettraient pas la culture à leurs descendants, parce que c'était une culture qui était morte et qui allait mourir avec eux. Le bulldozer occidental avait tout détruit, et que ce qui correspondait, que même la brousse avait changé, et que donc il n'y avait plus à faire ça. Et donc il me demandait de faire un témoignage matériel de cet élément-là. C'est une des raisons aussi pour laquelle Palou a accepté que son herboristerie complète soit faite par des étudiantes de la faculté de pharmacie de Montpellier. Actuellement, toutes les plantes de Palou avec les éléments correspondants sont tous dans l'herboristerie du jardin des plantes de Montpellier.
Patrick Dallot, va falloir que vous reveniez. Parce qu'on n'a pas fini.
Oui,
on n'a pas fini avec
prévu,
vous.
Oui, tout
c'est
à fait.
Prévu. Voilà. Bah, franchement, voilà cette immersion dans cette culture burkinabé, enfin même encore plus précisément ce que vous avez venu de dire. Winien, voilà. On apprend que vous êtes maintenant le griot de cette culture-là.
Je suis plutôt le témoin.
Le témoin.
Le témoin, ça. Parce qu'on va garder le terme de griot à ceux qui le sont.
C'est voilà. Ça. Et pour compléter, pour dire simplement, quand Patrick a expliqué qu'on l'a autorisé à prendre des photos, qu'il a fait des clichés absolument extraordinaires de tout ça.
On en reparlera.
Mais c'est de l'histoire, c'est plus l'ethnographie.
Voilà, exactement.
Merci à tous les deux, merci Marie-Claude, merci Patrick Dallot.
La musique, c'est...
Bolo Makoté.
Bolo Makoté, c'est Farafina.
Farafina.
Alors, c'est de la musique qui est bobo, en fait. De Bobo Dioulassou. J'ai pris parce qu'il y a quand même beaucoup de balafons dans lesquels il y a des balafons Bouaba qui sont dans cette zone-là. Parce que des musiques winiens, il faudrait que je cherche dans mes archives pour vous sortir des sons. Mais c'est des sons qui sont winiens et qui ne sont pas du tout dans la musicologie habituelle que les oreilles occidentales écoutent.
Merci à tous les deux et on se revoit la semaine prochaine.
Au revoir.